Radio Burier.
Alors, bonjour et bienvenue à Radio Burier. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'énergie. Je suis avec David. Bonjour David.
Bonjour Jean-David.
Bonjour. Donc, on va plus particulièrement s'intéresser au nucléaire, vu l'actualité qu'on a actuellement avec Fukushima, les problèmes, les votations en Suisse et toute la discussion qu'on a autour. Donc, on va d'abord entendre l'avis de David sur la question et après, on va faire une petite discussion. Mais avant tout ça, un petit peu de musique.
Oui, Jean-David, nous allons effectivement écouter, alors pour changer de la musique classique, avec Le vol du bourdon de Rimsky-Korsakov.
Alors, nous revoilà. David, qu'est-ce que tu as comme avis sur le nucléaire? Je crois que tu as rédigé un petit article, alors on t'écoute.
Un article ou plutôt un coup de gueule, donc, que je vais vous lire maintenant. Alors, le Japon a été secoué par une crise terrible, la pire du pays depuis la Deuxième Guerre mondiale. Au tremblement de terre et au tsunami succéda ce mot terrible, Fukushima, que beaucoup ont découvert seulement à ce moment-là, une centrale située au nord de Tokyo. Quatre syllabes qui eurent au fait d'éclipser les drames qui le firent entrer dans les journaux du monde entier. Mais tout cela nous mène à une crise plus grave encore, le tsunami d'encre versé par les médias. Les journaux ont tôt fait de faire ressurgir des noms comme Tchernobyl et Long Island, deux noms qui avaient eux aussi fait couler une belle quantité d'encre. Le risque de tout cela est bien simple, l'exagération pour faire vendre plus. C'est dans ces moments-là que l'information devient de la désinformation. Plus que de leur mission d'informer, les médias se préoccupent de leurs bénéfices et s'ils s'inspirent de l'actualité, ils rédigent une fiction qui fait vendre du papier. Mais si toutes les sphères des médias sont touchées, les quotidiens, à la fois écrits et télévisés, sont nettement moins touchés. Est-ce le stress de vendre suffisamment pour une semaine ou un mois de revenus qui en serait la cause? Le fait demeure, entre temps présent qui altère les propos de ses intervenants et l'hebdo qui nous annonce plus de 1000 morts, 10 000 morts lorsque le Times en annonce 3000 confirmés, la vérité est habillée de fiction. Et il devient difficile de faire le tri. Nous n'avons donc plus le choix, il nous faut nous en tenir aux grandes lignes qu'écrivent ces rapaces cupides et ne pas céder aux émotions qu'ils essayent de déclencher. Cela devient le seul moyen d'être informé. Car tout ou ne rien croire revient au même ne pas être informé.
Ok, alors, on t'a entendu. Donc, en gros, il y a un gros coup de gueule de ta part pour ces médias qu'on a beaucoup trop dit sur Fukushima.
Oui, je trouve qu'il y a beaucoup de termes qui ont été exagérés. Par exemple, dans la presse américaine, lorsqu'ils parlent de Fukushima, ils parlent souvent de meltdown, donc qui était le cas à Long Island, il me semble, où le réacteur avait surchauffé et puis avait fait fondre tout autour de lui et puis était tombé, enfin était descendu, donc le terme de meltdown. Un terme qui ne s'applique pas du tout à Fukushima puisque le problème est tout autre. Le réacteur, c'est surtout les bâtons de combustible usagés dans les piscines qui s'asséchaient qui faisaient que
la radiation
se propageait.
Ouais, il raconte un peu en même temps n'importe quoi. Il parle beaucoup pour dire n'importe quoi. Ouais.
N'importe quoi, il ne faut quand même pas exagérer, mais je trouve quand même qu'il y a eu pratiquement une volonté de déclencher la panique que les gens... ont voulu s'informer.
Ouais.
Et puis voilà, des articles aussi qui n'étaient pas forcément utiles. J'ai vu dans le Times, par exemple, une page entière, non, deux pages entières consacrées aux effets de la radiation sur le corps humain. Mm-hmm. En Angleterre, je ne vois pas à quoi ça peut vraiment servir pour les gens.
Oui, plus pour faire peur, ouais, avertir. Alors, encore un peu de musique.
Alors, nous venons d'entendre la gynopédie numéro 1 de Satie. Voilà, donc après avoir critiqué la presse, on va quand même essayer de voir ce qu'elle nous dit maintenant, plus spécifiquement sur la Suisse et la fin du nucléaire. Jean-David, je te laisse la parole.
Alors, j'ai lu quelques articles du Temps qui ont paru ce dernier mois environ. Je vais prendre pour commencer un article de Christian Wanziger, conseiller national des Verts. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous rapporte déjà qu'une estimation du coût de cette catastrophe à Fukushima, eh ben, on peut l'estimer à 4 000 milliards de dégâts. C'est quelque chose d'énorme. Alors, je ne sais pas si David, tu penseras que c'est un gros chiffre pour, de la presse pour montrer comme quoi c'est quelque chose de grave et tout. Je trouve quand même que c'est une somme énorme et se dire que le nucléaire, ça fait rarement des erreurs, mais quand ça en fait, et que c'est un peu qui tout double. Comme manière de faire. Ouais.
La question que je me pose, moi, c'est où il tire ces chiffres et à quoi il s'applique. Si on regarde par exemple à Tchernobyl, en même temps, les autorités de l'URSS disaient qu'il y avait eu 3 morts dans l'explosion en soi, mais l'OMS a ses chiffres et d'autres services de santé ont leurs chiffres, soit sur les cancers que ça a provoqué, ce genre de choses.
Ouais.
Donc est-ce qu'il estime aussi les soins médicaux qui vont être apportés ou ce genre de choses ? Mais en soi, le chiffre reste absolument immense, oui.
Ouais, énorme. Et selon lui encore, il pense que, indépendamment de ce qui s'est passé à Fukushima, on peut voir que des industriels suisses et des politiciens pensent que le renouvelable pourrait remplacer le nucléaire simplement par intérêt économique et par... au niveau, ça donnerait plus de place de travail et ça pourrait même fournir plus d'énergie si on mettait tout l'argent qu'on mettait dans le nucléaire pour le renouvelable. Je sais pas ce que tu en penses.
Bon, avec des chiffres pareils, ça me paraît assez plausible, oui.
Oui, c'est possible. Ok, on va passer à un autre article. Donc, Doris Leuthard, c'est elle qui a lancé tout d'un coup très fortement le débat en Suisse parce qu'elle nous a un peu étonnés en nous disant que elle a coupé toutes les initiatives en cours qu'elle voulait faire soumettre au peuple après ce qui s'est passé à Fukushima. On voyait, il y avait 4 plans, je crois, qui étaient prévus pour continuer le nucléaire. Et en fait, aucun de ces 4 plans qui étaient prévus, même le plus écologique, ne prévoyait une sortie du nucléaire. Et puis c'est Doris Leuthard qui a coupé ça pour qu'on réévalue tous les risques et qu'on réévalue comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on sort du nucléaire ou est-ce qu'on continue. Sinon, qu'est-ce que l'on peut voir ? Au niveau de l'énergie en Suisse, il n'y a pas que le nucléaire. Et on commence aussi à s'intéresser au gaz naturel qu'on peut trouver dans les mêmes fosses que le pétrole. À côté du pétrole, on le gaspillait avant, puis maintenant on essaye de le récupérer un peu. Et c'est à Chavalon qu'on pense transformer une ancienne centrale qui était au pétrole ou mazout, je crois, pour l'utiliser au gaz naturel maintenant. Alors ce serait un gros chantier de 500 millions de francs, mais qui pourrait produire plus qu'une centrale nucléaire produit normalement. Donc ça peut être rentable. Après, est-ce que c'est vraiment écologique? Ça produit quand même du CO2. C'est une question.
Je reviens juste sur l'article de Doris Leuthard. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que c'est seulement après la catastrophe que les politiques commencent à s'intéresser vraiment à ce genre de choses, à susciter le débat et à faire sensation, finalement?
Alors,
C'est des projets qu'ils avaient lancés par consensus en se disant que c'était une bonne chose. Puis maintenant, tout d'un coup,
On
va peut-être changer.
C'est surtout les Verts qui saisissent une occasion parce qu'ils essayaient sans argument de prouver, de dire le nucléaire c'est dangereux, on ne peut pas. Et ben, ils ont utilisé quand même. Et puis après, on peut se poser la question ils avaient le droit ou pas. Mais ils ont utilisé bien sûr ce qui est arrivé pour relancer le débat politique. C'était un argument. Mais je pense que c'est quand même bien qu'on en parle après ça. C'est une preuve.
Voilà. Donc finalement, ça aurait été stupide de ne pas prendre compte de cette catastrophe.
Alors bien sûr qu'il fallait en parler. Après, je trouve quand même que la réponse de Doris Leuthard est assez extrême. Mais pourquoi pas, ça relance un débat. Je suis plutôt pour. Sinon, il y a aussi à Genève qui a un très très grand projet qui lui coûterait 4 milliards de francs. Ça serait de la géothermie. Je crois que c'est quelque chose d'assez en vogue en ce moment. Ils ont déjà essayé de faire un projet à Bâle, je pense qu'on a entendu parler. Après quelques tremblements de terre, ils ont décidé d'abandonner le projet. Je crois qu'ils ont rebouché. Ça a dû coûter assez cher aussi. Cette fois, ça serait à Genève alors. Et cette centrale pourrait faire de l'énergie une quantité supérieure à ce que consomme le canton annuellement. Et c'est vraiment énorme. Un coût énorme et puis une quantité d'énergie énorme. Alors, pour l'instant, ils sont en train d'évaluer le projet, voir s'ils veulent vraiment le faire. C'est pas encore totalement sûr.
Est-ce qu'ils expliquent un peu comment ça marche, un projet pareil?
Alors, la géothermie, c'est creuser un trou très profond. Plus on va profond dans le sol, plus la chaleur augmente. Et on peut faire descendre de l'eau. Je crois que l'eau peut chauffer jusqu'à 200 degrés. Et là, le projet irait jusqu'à 7000 mètres de profondeur. Et la particularité, c'est des galeries aussi latérales, qui ferait qu'il y aurait vraiment énormément de distance utilisée pour chauffer une grande quantité d'eau et faire beaucoup d'énergie. Voilà, je crois que c'est tout. Donc ça montre qu'on se dit des fois que le renouvelable, c'est juste des petites quantités, mon petit panneau solaire pour ma maison, mais on voit qu'avec une centrale, on peut aussi faire quelque chose de supérieur au canton de Genève, ce qui est énorme. Ensuite, est-ce qu'on peut voir encore quelque chose? Là, j'ai un article qui nous dit des informations très basique mais très importante, c'est comment est produite l'électricité en Suisse, quelle proportion. Donc on sait qu'il y a une proportion de 55% qui est produite par l'hydraulique. Vu que la Suisse a la particularité d'avoir des glaciers et des montagnes, on peut faire des barrages qui font une énorme quantité d'énergie. On a 40% de nucléaire, ce qui est quand même une bonne part, et seulement 2% d'énergie renouvelable, et sinon 3% centrales thermiques classiques, pétrole, gaz naturel et tout. On voit d'un côté que le renouvelable a une plus grande place que le nucléaire, mais que de remplacer et de casser le nucléaire, 40%, c'est quand même quelque chose d'énorme, et que ça peut peut-être pas se faire d'un coup comme ça.
Oui, donc ça va de toute façon prendre du temps.
Alors, on va écouter une petite musique, et ensuite on pourra voir comment on peut faire une synthèse de tout ce qu'on a lu, Letty.
Une petite musique donc, avec la valse de Shostakovich. Thank you.
Donc voilà, on va faire une petite synthèse. Donc la question qu'on aimerait aborder, c'est est-ce qu'une sortie nucléaire, du nucléaire est-elle possible à commencer maintenant? Après cet article, qu'est-ce que tu en penses, David?
Je pense qu'elle est parfaitement possible, je pense juste que ça va prendre du temps. Je pense aussi qu'elle est, elle est nécessaire. Personnellement, j'ai toujours été opposé au nucléaire parce que je trouve absurde de générer de l'énergie avec un moyen qui va nous embêter avec des déchets dangereux pendant plus de 1000 ans. Donc.
Okay. Donc oui, comme tu dis, je pense que c'est vrai que ça prend du temps, vu qu'on a vu que 40% de l'énergie, de l'électricité produite en Suisse est faite par le nucléaire. Ça, on ne peut pas le remplacer d'un coup comme ça. Pourquoi moi, je serais plutôt pour finir les centrales qu'on a actuellement et puis aller le plus vite rapidement possible vers des énergies renouvelables. Ensuite, après... comme disait Christian Van Siger, le conseiller national vert, si c'est vrai ce qu'il dit et qu'on a un vrai intérêt économique et puis social au niveau des emplois d'investir dans le renouvelable plutôt que le nucléaire, je ne vois pas pourquoi on dirait non, même ceux qui ne voient pas de problème soit au nucléaire au niveau du danger. Et si le fait est qu'on y gagne économiquement, et il faut se lancer dans le renouvelable.
Oui.
Sinon, au niveau des médias, alors tu étais... T'avais ton coup de gueule contre la manière dont c'était annoncé cette nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu penses des articles qu'on a vus ensemble juste maintenant? Est-ce que tu trouves que c'est de la désinformation ou est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose?
Alors d'abord, je trouve que Le Temps, c'est un assez bon journal si on avait pris des articles du matin, par exemple, ou pire, du 20 minutes. Ça aurait sans doute été très différent. Ensuite, je trouve que on redit beaucoup les mêmes choses. Il y a toujours ce thème, évidemment, de l'énergie renouvelable, sortir du nucléaire. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a les votations dessus? Sans doute. Mais voilà, finalement, les gens se répètent et puis on retrouve les mêmes arguments encore et encore. Et finalement, ce n'est pas des articles qui valent chacun la peine d'être lus, puisqu'on retrouve les trois quarts de ce qui a été dit dans un autre article qu'on aura déjà pu lire. Mais finalement, c'est simplement le titre, le fait qu'on parle du nucléaire qui va nous pousser à venir le lire parce que on est inquiété par cette situation.
Ouais. Alors ton argument de dire c'est parce qu'il y a les votations qu'on peut-être qu'on parle. D'un côté, c'est bien d'engager une discussion quand il y a les votations. C'est une occasion, je trouve bien, d'apporter, d'entourer le problème. Moi, j'aime bien les articles qu'on a lus. C'est clair qu'il y a des informations qui se répètent parce que les sources d'informations sont souvent toujours les mêmes. Mais au moins on en parle et puis chacun commence à se faire une opinion là-dessus.
Ce que je trouve par contre, c'est que sans doute parce que ça vient d'un seul journal donc qui a son opinion, mais tous les articles qu'on a lus sont pour sortir du nucléaire.
Ouais.
J'en ai pas trouvé vraiment qui soit pro-nucléaire.
Alors je suis tout à fait d'accord avec ta remarque, c'est vrai. Je pense que c'est Le Temps qui est plutôt du côté vert.
Donc pour se faire une opinion constructive, ça ne suffit en tout cas pas. Parce qu'on va voir toutes les opinions d'un côté et on peut pas voir l'entièreté de la pièce.
Alors j'approuve tout à fait ta remarque. Voilà, je pense qu'on va gentiment conclure cette émission. On n'a bien sûr pas pu parler de tout.
Non, le sujet est beaucoup trop grand.
Voilà, on a juste un peu parlé de la question. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez nous retrouver sur radiobus.fm. Alors, les heures sont le lundi de 20h à 21h.
Le mercredi de 6h à 7h.
Le jeudi de 13h à 14h.
Et le dimanche de 18h à 19h. Sur Skolcast, le blog des écoles, vous pouvez aussi nous retrouver. Le lien est à partir de radiobus.fm. Et ça, ce sont des podcasts que vous pouvez télécharger et écouter quand vous voulez.
Alors, nous vous remercions de votre attention. Merci de nous avoir écoutés. Et à une prochaine sur Radio Burier.
À une prochaine, au revoir.
Au revoir.
Radio Burier.
Radio Burier.